Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver sur Radio Immo dans Carrément Immo. Carrément Immo, vous le savez, c'est votre émission hebdomadaire dans laquelle je reçois à chaque fois deux professionnels de l'immobilier, deux experts qui viennent me parler d'un sujet en particulier, croiser leurs regards. Aujourd'hui, on va justement parler d'un sujet très intéressant dont on parle souvent, le rapport entre le syndic et les copropriétaires. Voilà, on va parler de la copropriété de demain. Pour ce faire, deux professionnels avec moi, Jean-Baptiste Croppe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de Galion SMA BTP, ravi de vous recevoir. Et Bruno Houssin, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes administrateur Galion également, mais aujourd'hui vous venez avec votre casquette justement de professionnel de l'immobilier. Vous êtes gérant de Proximo. Alors Proximo, vous faites les trois métiers, hein. Vous faites de la vente, location, de la gestion locative et évidemment vous êtes syndic également.
Également, tout à
voilà,
fait.
Les trois casquettes. Alors, on va partir d'une étude que vous avez voulu mettre en place avec Via Voice. C'est justement un regard croisé entre le syndic et la copropriétaire. Alors, juste avant de parler en détail de cette étude, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé? Parce que c'est vrai que Galion, on connaissait Galion, aujourd'hui c'est Galion SMA BTP, il y a eu une fusion entre les deux entités. Est-ce qu'on peut juste faire un petit rappel pour nos auditeurs?
Oui, tout à fait, merci. Effectivement, Galion et SMA BTP ont uni leurs forces au service des professionnels de l'immobilier. C'est un travail qui a été mené tout au long de l'année 2024 et qui a abouti en novembre, le 18 novembre 2024, avec la fusion de Galion d'une part, qui est un acteur historique depuis 60 ans de l'assurance des professionnels de l'immobilier, et SMA BTP, qui est un groupe un petit peu plus gros, mais qui avait une branche dédiée aux professionnels de l'immobilier. Et donc, ensemble, on est plus forts. Et ça nous permet d'apporter de nouvelles offres aux professionnels de l'immobilier, à la fois en termes de portage de risque, à la fois en termes de service.
Donc répondre à une offre, une demande plus large, on va dire.
Exactement.
Alors,
exactement.
Là, on parle donc de la relation syndic-copropriétaire. Avant tout, donc, pourquoi cette étude? Donc, cette étude qui a été réalisée avec Via Voice, de quel constat êtes-vous parti et pourquoi avoir demandé cette étude?
Alors, donc Galion SMA BTP, donc c'est l'assureur des professionnels de l'immobilier. On a effectivement une gouvernance d'ailleurs qui est composée de professionnels de l'immobilier et dont Bruno est un éminent représentant aujourd'hui en tant qu'administrateur.
Et c'est important de le préciser parce que c'est ce qui fait votre force quand même. Hein.
Exactement. Donc c'est les professionnels de l'immobilier qui décident de tout ce qu'on fait dans cette entreprise. Donc ça c'est le premier point. Et donc parmi ces professionnels de l'immobilier, un des métiers principaux c'est le métier de syndic. Et c'est un métier avec lequel nous, assureurs, Galion SMA BTP travaillons de plus en plus et il nous a semblé utile d'en savoir un petit peu plus sur ce métier qui est souvent mal compris et parfois un petit peu décrié, donc mieux comprendre ce qui derrière était sous-jacent sur les différences de perception que peuvent avoir d'un côté les copropriétaires qui sont en fait les clients de nos clients et les syndics qui sont directement nos clients. Donc c'est on a choisi Via Voice, qui est un institut avec lequel on a déjà travaillé, puisque l'année dernière, Via Voice avait interrogé pour le compte de Galion SMA BTP des bailleurs sur la garantie loyer impayé. Donc on a renouvelé l'expérience cette année sur le métier de syndic. Et on travaille sur les résultats de cette enquête avec les syndicats professionnels, pour lesquels ça donne aussi matière à réflexion.
Alors, sans rentrer dans les résultats tout de suite, Bruno, vous qui êtes donc sur le terrain, quand vous avez découvert l'étude, les chiffres de l'étude, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que vous étiez plutôt en phase avec ces résultats? Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que ça vous a conforté dans ce que vous voyez, dans vos observations?
Tout à fait. Alors, j'étais pas plus surpris que ça, hein, puisqu'on le ressent, nous, au sein de nos bureaux, une attente un peu différente de nos copropriétaires, qui sont de plus en plus pressés, qui veulent des réponses immédiates. On sent aussi chez nos collaborateurs, en fait, un certain débordement. Et donc, à ce niveau-là, c'est pas toujours facile à gérer. C'est-à-dire que nos collaborateurs ont aussi une vie privée. Et donc, certains copropriétaires, pour vous donner un exemple, peuvent vous appeler très tard le soir et attendre une réponse immédiate, alors que ça va nécessiter des recherches. On sent aussi que beaucoup de syndics ont mis en place des nouveaux outils. Hein, on parle tout ce qui est extranet, par exemple, avec des informations sur lesquelles, finalement, le copropriétaire ne s'est pas encore approprié totalement ces outils et va nous appeler pour de simples recherches recherche basique, alors que la réponse, il l'a déjà vers lui.
Il suffirait qu'il maîtrise bien en fait, l'intranet, par exemple, il aurait toutes les réponses à ces questions.
Tout à fait. Donc, en fait, cette enquête pose question et peut nous permettre aussi de se demander qu'est-ce que éventuellement nous n'avons pas forcément totalement appréhendé et expliqué à nos copropriétaires. Donc, c'est vrai que des fois, on leur dit, on vous a mis un extranet en place, mais est-ce que tout le monde a le même niveau? Comment on se connecte déjà? Parce que très souvent, vous voyez, on a un appel pour nous redemander leur code et la façon d'accéder à cet extranet, alors même que c'est marqué sur leur relevé de charge. Mmh. Donc voilà, donc il y a aussi, ça c'est une remise en cause chez nous, et ça c'est intéressant, cette étude est constructive dans ce sens-là.
Et quand vous dites que justement les copropriétaires sont de plus en plus exigeants, ça c'est un fait, c'est vraiment ce que vous constatez, on va dire, parce que ça fait un petit moment que vous faites ce métier, depuis, je ne sais pas, les 10 dernières années,
Je pense qu'il y a eu une amplification, alors... Est-ce que c'est la Covid ou pas? Je n'en suis pas sûr. Ouais. Mais on sent bien que sur ces 5 dernières années, en fait, il y a une exigence qui est de plus en plus forte. Alors, le fait aussi aujourd'hui, pareil, hein, d'avoir Internet, l'IA, leur permet des fois de croire qu'ils savent ce qui se passe. Et c'est vrai que là-dessus, on rame un petit peu à leur apporter les bonnes explications. Après, il y a aussi une image négative du syndic qui est véhiculée depuis des décennies, sur lequel on se bat au quotidien. Et en fait, on s'aperçoit quand même que dans la gestion de nos copropriétaires dans l'ensemble sont plutôt satisfaits de notre travail. Mais donc il y a quelques actions encore à conforter pour que le rapport avec nos copropriétaires s'améliore.
Alors, pour rentrer un peu plus dans l'étude, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'un des premiers résultats, c'est que les missions du syndic sont assez floues pour les copropriétaires. Comment vous l'expliquez, ça?
Alors, c'est vrai que ça, c'était un des éléments intéressants de cette étude. Il y a une vraie différence de perception. Il y a un point sur lequel les deux se rejoignent, c'est on va dire le rôle de gestionnaire financier et administratif de la copropriété. Ça c'est clair pour tout le monde. Par contre, derrière, ce qui arrive sur le podium du côté des copropriétaires, c'est référent technique. Or, le syndic, lui, voit ses missions, et d'ailleurs, c'est pas lui qui les voit, c'est aussi son rôle et tel qu'il est régi par les textes. C'est un rôle de coordination en réalité.
Bien sûr. C'est pas lui le technicien de terrain.
Et non, mais il est amené à amener des sujets techniques en assemblée générale, dans les discussions avec les conseils syndicaux. Et là, il y a un vrai sujet de calage. Hein. Mmh. Et le syndic, il n'est pas rémunéré pour ça. Il a des honoraires qui sont plafonnés, enfin, en tout cas sur un certain nombre de sujets. Et donc, je pense qu'il y a un décalage entre la perception des copropriétaires et la réalité du métier. Il y a sans doute un besoin de communication et d'explication autour des missions du syndic.
Oui, pour reprendre ce que vous disiez, hein, dans l'étude, c'est clair, hein, donc les copropriétaires voient le syndic comme un gestionnaire technique, alors que les syndics se perçoivent comme des coordinateurs 360 degrés. C'est ce que vous constatez aussi sur le terrain, ce genre de malentendu?
Oui, en fait, très souvent sur des travaux d'envergure, on va faire intervenir par exemple plusieurs artisans, plusieurs sociétés. Et malheureusement, en fait, on n'a pas la connaissance, nos gestionnaires n'ont pas une connaissance extrême sur tout ce qui est maçonnerie, tout ce qui est toiture.
C'est pas leur métier.
Tout ce qui est... Exactement. Mais c'est vrai que déjà, c'est des sujets qui focalisent, parce que souvent on est sur des budgets plus importants qui sont débattus en Assemblée Générale. C'est des sujets qui, lors d'une Assemblée Générale, prennent le plus de temps, parce que des fois, il y a des divergences aussi de point de vue parmi nos copropriétaires. Et donc, il y a une véritable attente sur cette partie technique auquel on ne peut pas toujours répondre. J'ai bien vu, hein, sur certains travaux, lorsqu'on va conseiller de passer par un architecte ou éventuellement un maître d'œuvre, il y a une incompréhension de leur part, parce que, en fait, pour eux, ils ne voient que la partie honoraire. Et ils se disent, ils ne voient pas le service finalement, ils se disent mais pourquoi le syndic, pourquoi c'est pas lui qui gère tous ces travaux et qui se débrouille tout seul? Et en fait, c'est pas possible. Donc même si on forme de plus en plus nos gestionnaires de copro, il y a cet aspect-là, on pourra jamais remplacer un vrai technicien du bâtiment sur certains aspects.
Donc concrètement, on est d'accord, il y a de la pédagogie à faire. Ce serait quoi la solution pour effacer ce malentendu? Qui date quand même, hein, j'ai l'impression.
Oui, je pense... Alors, après, il y a nous de plus en plus. Hein, moi, je vois au sein de mon cabinet, on fait intervenir justement des sociétés qu'on a sollicitées pour établir des devis. Donc, il y a une technicité, une mise en œuvre et qui est beaucoup plus comprise par les copropriétaires quand c'est vraiment la personne qui va agir et qui va la mettre en œuvre que quand c'est un gestionnaire, puisque eux le maîtrisent tous les jours et c'est leur travail au quotidien. Donc ça, c'est un des points sur lesquels on peut aussi concrètement apporter des informations. La pédagogie, en fait, effectivement, est essentielle. Et je pense que des fois, les personnes, les copropriétaires voient le résultat final, l'objectif, mais ne voient pas, en fait, toute la mise en œuvre et les étapes à poursuivre. Quand on parle par exemple d'une rénovation sur une façade, un ravalement, il y a le simple ravalement et là c'est accessible pour beaucoup, mais il y a ravalement par exemple avec l'isolation par l'extérieur où là ça demande une connaissance différente. Il y a aussi l'aspect intérieur, est-ce que ça va impacter ou pas celui qui a déjà fait de l'isolation, comment ça va se mettre en place. Donc il y a une interaction, je dirais, plus importante à avoir avec nos copropriétaires et les sociétés que nous sollicitons.
Alors, il y a une phrase dans l'étude, les copropriétaires attendent plus de relations, mais ne veulent pas troquer l'humain contre un assistant virtuel. Parce que c'est vrai que c'est un peu la tendance aujourd'hui, hein, quand vous nous expliquez un petit peu votre quotidien, c'est de reléguer les tâches à l'IA, à l'intelligence artificielle, à un peu ce qu'on appelle des automatisations. On voit que c'est pas forcément bien accueilli, à 84%.
Alors, effectivement, il y a 84%, c'est un des éléments de l'enquête qui m'a beaucoup marqué. 84% des copropriétaires qui sont totalement réticents à l'usage d'un assistant virtuel. Et je pense que c'est lié à des mauvaises expériences de ces assistants virtuels qui n'ont pas répondu à leurs besoins. Ça, c'est un premier point. Mais il y a un peu de schizophrénie, en fait, parce que par ailleurs, les copropriétaires veulent aussi de plus en plus de digital. Ils veulent de plus en plus pouvoir avoir accès sur leur espace client à un maximum d'informations. Mais avoir une autonomie, pratique. Avoir du 24 heures sur 24. Oui. Voilà. Et à côté de ça, ils veulent quand même pouvoir joindre directement leur syndic. Ils veulent plus d'humains. Ils veulent avoir en face d'une personne. Ils veulent une présence terrain. Mais je pense que tout ça, en réalité, est tout à fait compatible. Pour moi, et je pense que c'est un des éléments de cette étude, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le digital doit permettre aux personnes de gagner du temps et d'être plus concentrées sur des tâches relationnelles et de terrain, plus que finalement de l'administratif ou juste fournir un document qui aurait pu être disponible directement sur l'espace client. Je pense qu'il faut voir ça comme finalement un ensemble assez cohérent. De non, je veux pas un assistant virtuel, même si je pense qu'on y viendra quand même, mais à condition qu'il soit vraiment pertinent. Je veux quand même pouvoir, quand j'ai une demande spécifique, quand j'ai besoin d'un échange, avoir une relation directe avec mon gestionnaire de copro.
Bruno, vous qui êtes en lien direct avec les copropriétaires, hein, en tant que syndic, est-ce que c'est votre ressenti aussi? Ils vous font ce genre de remontée? Non, on n'aimerait pas d'assistant virtuel.
Oui, alors ils font cette remontée, mais en même temps, aujourd'hui, on est obligé d'avoir l'usage ou d'utiliser certains assistants virtuels, d'utiliser l'IA. Et c'est primordial parce que l'humain, en fait, derrière, ça a aussi un coût. Et la problématique qu'on peut rencontrer, c'est de savoir valoriser ou de valoriser au bon niveau nos honoraires. Et là, il y a, comme souvent en France, hein, il y a quand même une certaine, dichotomie entre le souhait d'avoir plus de services, d'avoir plus de contacts humains et derrière de payer la bonne prestation. Donc, c'est pas évident. Après, c'est vrai que moi, je vois l'émergence de l'IA. Aujourd'hui, c'est un bienfait important dans nos services. Quand on voit, par exemple, qu'on a des questions spécifiques sur un règlement de copropriété qui fait 150 pages, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on était obligé de feuilleter beaucoup de pages du règlement pour trouver la bonne réponse, sachant que des fois, elle était éparpillée sur une dizaine de pages. Là, l'avantage des fois, avec l'IA, c'est on va soumettre, en fait, ce document et d'un seul coup, on va avoir une synthèse par rapport à la question qu'on a posée. Donc, c'est intéressant. Après, ça a été évoqué aussi par certains de mes confrères, l'usage, par exemple, de l'assistant virtuel en dehors des heures d'ouverture. Oui. C'est aussi intéressant parce que, en fait, finalement, on va répondre pas à toutes les questions, mais des questions plus basiques et on va satisfaire certains copropriétaires. Il y en aura toujours qui, malheureusement, diront je veux pas ce genre de service. Mais voilà, si on veut faire notre métier de base, qui est gérer en fait la copropriété, administrer cette copropriété, on est obligé ou on sera obligé de renforcer aussi tout ce qui est virtuel, tout ce qui est digital dans la gestion des copros.
Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que l'IA a révolutionné votre métier?
Alors, révolutionner, comment ça le révolutionner? Je pense qu'on est qu'au balbutiement. C'est-à-dire que je pense que même, d'ailleurs on le voit, hein, sur des formations spécifiques, il n'y en a pas tant que ça, on a plus des formations génériques aujourd'hui sur l'IA, mais l'usage vraiment de l'IA, parce que beaucoup de personnes dans mon entourage me disent j'utilise l'IA, mais je ne suis pas certain qu'ils l'utilisent tous de manière efficace. Tout le monde ne sait pas forcément rédiger un prompt, tout le monde ne sait pas créer en fait un agent virtuel. Donc on est qu'au début. Et au même titre, attention, c'est un usage côté professionnel, côté syndic, mais c'est aussi un usage qui est fait par certains de nos copropriétaires. Donc des fois, on va être aussi sur une réponse qu'on va apporter à des questions précises. On pourrait être mis en concurrence, si on peut dire, par des réponses qui seront soumises à l'IA par le copropriétaire. Donc, ça demande aussi sans cesse une remise en cause. Mmh. Ça demande à être formé régulièrement et de faire attention. Et pareil, l'usage de l'IA, moi en tout cas au sein de mes équipes, je leur dis toujours, vous devez relire, vous devez vérifier. Et même des fois, réécrire. Parce que des fois, ça va être plus technique selon l'aspect qu'on va demander, le prompt qu'on va écrire. Et donc, il faut le rendre aussi lisible vis-à-vis de nos copropriétaires.
Donc, il y a quand même ce besoin d'une vigilance humaine.
Tout à fait. Mais voilà, l'IA n'enlèvera pas l'humain.
Bien sûr.
Surtout dans la gestion de copropriété.
Il y a toujours des blocages. Est-ce que c'est le cas dans vos équipes? Est-ce qu'il y en a qui sont totalement réfractaires à la mise en place de l'intelligence artificielle?
C'est extraordinaire. Moi, j'en ai qui étaient totalement opposés. Et depuis le début de l'année, j'ai fait des formations spécifiques par activité. Je leur ai imposé. Ils n'avaient pas le choix.
D'accord.
Donc, ils étaient en groupe. Et en fait, les plus réfractaires sont aujourd'hui ceux qui me disent « Mais c'est extraordinaire. » Et qui même... ont utilisé finalement cette formation à titre personnel. C'est-à-dire qu'ils sont, ils viennent de découvrir que c'était efficace, alors sous réserve de vérification, mais c'est phénoménal. Et le gain de temps potentiel est important.
Bien sûr. Alors, on parle des nouveautés, justement, en parlant d'IA. Dans l'étude est évoquée l'idée d'un livret de fiches pratiques, de nouveaux outils. Est-ce que Galian et SMA BTP travaillent justement sur ces sujets-là?
Alors, nous, on est assureurs, hein, des professionnels de l'immobilier, donc ce n'est pas notre rôle, je dirais, de construire des outils des syndics vis-à-vis de leurs clients. En revanche... On participe à des groupes de travail sur le volet assurantiel avec les syndicats professionnels. Je pense que de façon générale, parler de fiches pratiques, c'est peut-être un peu réducteur, mais de façon générale, il y a une action sans doute nécessaire et je pense permanente, c'est pas juste une action ponctuelle, d'explication, d'émission du rôle du syndic, de ce qu'il apporte à la copropriété, de là aussi où sont ses limites, on en a parlé tout à l'heure sur le rôle de technicien.
Oui. Voilà. Les limites qui sont floues en fait. Hein,
voilà, donc pour répondre à votre question, au niveau de Galian SMA BTP, notre rôle est plutôt sur la partie assurantielle, d'apporter une contribution à ça et aussi en termes de formation et d'accompagnement. Mais c'est un travail effectivement que les syndicats professionnels, sur lequel les syndicats professionnels travaillent en ce moment. Ouais.
Est-ce qu'on peut professionnaliser justement davantage cette relation? Est-ce que c'est quelque chose selon vous qui est possible?
À professionnaliser la relation, pour moi, elle est déjà professionnelle, en fait. Elle est déjà professionnelle. Je pense que c'est plus une question de...
Est-ce qu'on on peut aller plus loin, justement? Est-ce qu'on peut...
On peut aller plus loin dans les outils, on peut aller plus loin dans l'expertise. Je pense qu'on doit travailler là-dessus, utiliser les outils, comme vous l'avez dit, Bruno, qui sont mis à nos dispositions avec les nouvelles technologies. Mais je pense que parler de professionnalisation, je ne voudrais pas faire offense aux syndics qui sont déjà... professionnels qui progressent déjà énormément sur ce volet-là. Après, on n'est jamais arrivé, il faut continuer à se former et aussi à communiquer.
Alors, autre grand sujet dans l'étude, c'est l'engagement des copropriétaires. Alors, j'ai l'impression que ça, c'est un sujet qui prend un peu plus d'ampleur chaque année. 35% des copropriétaires s'estiment peu investis dans la gestion. C'est vrai que c'est un point important, ça, et non négligeable.
Ouais. C'est assez surprenant parce que, vous voyez, ils ont de plus en plus d'attentes.
Ouais.
Et en même temps, lorsque vous vous retrouvez en assemblée générale et que vous demandez qui veut être membre du conseil syndical, vous avez de moins en moins de monde à être présent. Et vous avez même de moins en moins de monde à être présent aux assemblées générales.
Engager, ouais.
Sauf s'il y a un sujet où vous allez engager
des travaux
très importants. Mais c'est vraiment dommage parce que, en fait, pour qu'une copropriété soit bien gérée, c'est un partenariat entre à la fois un gestionnaire de copro, son assistante, et un conseil syndical qui souvent en fait habite l'immeuble. Parce qu'un gestionnaire de copro ne va pas passer tous les jours ou toutes les semaines voir son immeuble et voir s'il y a des... Donc il y a en fait, il faut qu'il y ait une connivence. Et pour ça, on a besoin de copropriétaires qui se sentent investis. Après, c'est pareil, gérer un immeuble où à chaque fois qu'on pose une question, on a un nom. c'est pas pour un gestionnaire de copro, bah, c'est pas satisfaisant parce qu'à un moment il s'essouffle. Oui. Si d'année en année vous proposez de faire évoluer la copropriété, de réaliser des travaux et qu'on vous dit toujours non, donc il y a une prise de conscience à avoir de la part des copropriétaires et c'est leur patrimoine. On parle de leur patrimoine et je pense que très souvent c'est malheureux, mais ils ne le voient pas à un moment, ils ne le voient plus comme une valeur d'actif qui leur appartient.
Et comment vous l'expliquez justement ce désengagement au fil du temps, année après année, des copropriétaires? Encore une fois, est-ce que c'est les vies qui sont à 1000 à l'heure?
Des fois, on a une remarque qui n'est pas toujours, d'ailleurs, qui est parfois désobligeante à l'égard de nos gestionnaires et à l'égard de notre organisation. On essaye d'organiser des assemblées générales plutôt en fin de journée, mais très souvent, on a des copropriétaires qui nous disent « mais vous ne comprenez pas, nous, à 19h, on travaille encore ou on n'est pas rentré du travail oui. ». Donc déjà, ils ne comprennent pas que nous aussi, on travaille, que nous aussi, nos collaborateurs ont des vies de famille. Et donc, il faut essayer de trouver une compatibilité. Une assemblée générale, c'est généralement une fois dans l'année. Donc, on leur demande de faire l'effort une fois dans l'année. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu dommage. Donc, je pense que certains baissent les bras là-dessus en disant, voilà, ça ne nous intéresse pas.
Donc, c'est une question d'horaire, en fait.
Alors, il peut y avoir ça.
Ouais.
Il peut y avoir aussi le fait que certains méconnaissent totalement, alors plutôt sur une jeune population, méconnaissent totalement les règles de vie d'une copropriété et les règles d'organisation d'une copropriété. Donc, à partir de là, se sentent désintéressés. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Donc, il y a de la pédagogie, je pense, dès l'acquisition.
Donc, pour les nouveaux propriétaires, par exemple.
Exactement. Ouais. Donc, dès l'acquisition, mais aussi par les acteurs qui participent à l'acquisition. D'expliquer que quand on achète dans un immeuble, y a des règles qui régissent la copropriété et il y a un investissement à avoir en tant que copropriétaire. Parce qu'on ne peut pas toujours se plaindre. Il faut à un moment aussi être acteur. Donc ça, c'est important.
Il faut y mettre du sien, c'est important. C'est vrai
que dans l'équipe... je pense que c'est très compliqué pour un syndic... d'obtenir la satisfaction de ses copropriétaires s'il n'a pas un conseil syndical investi qui travaille avec lui main dans la main. Et effectivement, que les copropriétaires puissent être davantage conscients et de l'impact que eux peuvent avoir sur leur patrimoine, mais aussi sur leur bien-être, sur leur relation de voisinage et sur la valeur, mais aussi le mieux vivre ensemble dans la copropriété à long terme. Je pense que c'est des éléments qui peuvent leur donner envie de s'investir davantage, qui comprennent le sens de cette action-là.
Il est évoqué d'ailleurs dans l'étude un point qui serait d'organiser une rencontre hors AG pour les nouveaux arrivants dans l'immeuble, les nouveaux propriétaires, les nouveaux... c'est évoqué, je crois, dans l'étude. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui serait intéressant, c'est ce que vous disiez.
Oui, mais après, c'est du temps.
Ouais.
C'est du temps. Et encore une fois, il y a eu des initiatives par des confrères qui mettent en place ce genre de réunion. Après, c'est le résultat. Vous invitez 20 personnes. Si vous en avez que deux qui viennent, alors deux,
c'est frustrant.
Voilà. On se dit autant d'énergie. C'est un petit peu dommage.
Alors, on parle beaucoup du grand chantier du moment, la rénovation énergétique. Dans cette étude aussi, elle est abordée. Près d'un copropriétaire sur deux n'a pas de projet de rénovation malgré le besoin. Donc, ça veut dire que le besoin pour le logement d'être rénové, j'entends par là ça. Donc, l'étude montre que le financement est le premier frein. Bon, ce qui n'est pas une surprise. C'est ce qui ressort de manière générale du terrain. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, justement?
C'est peut-être forcer le politique à arrêter de changer justement sa stratégie sur les aides tous les quatre matins, parce que clairement les gens sont perdus. Donc il y a une nécessité d'accompagner. D'essayer tout ce qui est aussi politique locale, de faire qu'il y ait une harmonisation, parce que d'une commune à l'autre, vous n'avez pas la même approche, ou d'une communauté d'agglo, vous n'avez pas du tout la même approche. Et ça permettrait, dans la plupart des cas, d'avoir au moins une visibilité sur la participation qu'on peut escompter sur des travaux de rénovation énergétique. Donc ça, c'est pour moi un des premiers aspects. Et après, il y a aussi donc le financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une réglementation qui a évolué. Mais aujourd'hui, le financement par les banques, dans le cadre de prêts collectifs, n'est pas quelque chose qui a séduit beaucoup d'intermédiaires bancaires. Donc là aussi, il y a plusieurs projets en cours.
Auprès des banques.
Auprès des banques, oui. Donc ça pourrait peut-être faciliter aussi un petit peu l'approche financière et la gestion financière de la copropriété.
Vous évoquez le rapport là, de la fameuse banque de la rénovation énergétique qui vient d'être rendue, c'est ça?
Oui, plus en fait, l'accélération en fait, des prêts collectifs. où là aujourd'hui on voit bien qu'il y a très peu d'acteurs sur le marché. Donc c'est complexe. Je pense que d'ailleurs on peut s'inspirer de pays qui ont déjà mis en place ces prêts collectifs. Vous avez un pays qui pour moi est assez en avance par rapport à nous, c'est le Québec.
Ah oui.
Le Québec, sur justement, et dans le pilotage d'une copropriété, je dirais qu'aujourd'hui, là-bas, c'est devenu un acquis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu le semblant chez nous, c'est les plans pluriannuels de travaux, oui. où en fait, on va programmer sur 5 ans, 10 ans, les travaux qui seront à prévoir. L'avantage qu'on a, c'est qu'on va lisser finalement le financement sur toute cette période-là, que malheureusement encore trop souvent chez nous, c'est en fait on va voter des travaux ponctuellement et c'est souvent des grosses sommes. Donc là, il y a un frein par des copropriétaires. Et après, sur cet aspect-là, on ne peut pas négliger, bien que c'était l'aspect financier, c'est aussi la différence de traitement qu'il y avait entre le propriétaire qui occupait son logement, le propriétaire bailleur, ouais. mais location vide.
Et ça, c'est un gros problème.
Et la location ouais. saisonnière, ouais. exactement.
Ouais.
Où
parce
là,
que
l'intérêt n'était pas le même.
Bon, ouais, bien sûr. Que forcer le propriétaire bailleur uniquement à faire les travaux, c'est vrai que c'est pas le plus malin, on va dire. Dans cette étude, vous évoquez la création d'un nouveau type de garantie pour faciliter l'accès au financement, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Jean-Baptiste ?
Oui, avec plaisir. Et c'est vrai qu'un des éléments de cette étude, vous l'avez dit, j'étais pas surpris sur le fait que les syndics et les copropriétaires soient d'accord sur la nécessité d'avoir un accès plus simple au financement. Mais dans ces proportions-là, franchement, je ne l'avais pas imaginé. Je crois que c'est 94% oui. des syndics. Et plus de 80% oui. qui, des ouais. copropriétaires qui mettent en avant cette problématique. Alors effectivement, dans le financement, il y a les aides, mais il y a aussi le financement bancaire, avec clairement un déficit aujourd'hui de l'offre. Un déficit de l'offre qui est lié au financement lui-même, mais aussi à la sécurisation du financement. Vous savez, quand une banque finance, elle demande toujours une sécurité. Et donc, on travaille là-dessus, sur ce que nous, en tant qu'assureur, on pourrait apporter pour sécuriser les organismes prêteurs, en fait, les banques.
Et vous travaillez, j'imagine, avec ces organismes-là ?
Oui, bien sûr, et avec aussi les représentants des professionnels de l'immobilier pour trouver, on va dire, la meilleure solution commune.
Et alors, question, est-ce que vous travaillez avec tous les organismes ou certains sont vraiment réticents à ces sujets-là ? Sans les citer, hein, évidemment, mais...
C'est un petit marché. Alors, les syndics travaillent essentiellement avec quelques banques, quelques ouais. groupes bancaires. Donc, nous, on a vocation à travailler avec toutes les bonnes volontés. Hein.
Ouais.
Voilà.
Et alors, la question, c'est est-ce que tous les organismes sont de bonne volonté ? Non, pas forcément.
Si, mais après, il faut des volumes, il faut un intérêt à faire.
Ouais.
Il faut avoir accès à cette clientèle. Ça dépend aussi de l'organisation des banques. Certaines sont très décentralisées. Donc, ça nécessite d'ailleurs des processus à... Voilà. Donc, sujet pour nous qui va continuer à l'automne.
Oui, on peut dire que Galian SMA et BTP a vraiment un rôle à jouer dans cette transition énergétique.
Très certainement. Donc là, on a parlé du financement. Galian SMA BTP a aussi un rôle à jouer sur l'assurance des travaux, puisque ce sont des travaux qui nécessitent une dommage ouvrage,
ouais.
Sur lesquels on est également présent et on essaie de rendre de faciliter l'accès à cette assurance.
Globalement, est-ce qu'on peut dire que le sujet numéro un, quand même, pour les aides, c'est quand même la pédagogie. La communication, hein, c'est vrai, c'est ce qui ressort hein, de la part pour les syndics et pour les copropriétaires.
Tout à fait. Même au niveau des syndics de copropriété, c'est pas toujours évident de faire le tri dans les aides auxquelles la copropriété pourra prétendre. Sachant en plus que dans une copropriété, vous avez aussi des profils totalement différents. Vous avez des gens qui ont des ressources plus faibles et qui, eux, vont pouvoir prétendre à d'autres aides ou des compléments d'aide. Donc, voilà. Donc c'est vrai que c'est important. Et c'est important de sensibiliser tout le public, justement, à ces dispositifs quand c'est possible. Mais en dehors de ça, de toute manière, des fois, il y a une nécessité de réaliser ces travaux. Et on ne voit pas les choses de la même manière. Aujourd'hui, moi, par exemple, quand je suis en assemblée générale de copropriété, un propriétaire qui m'évoque qu'il va changer son ballon d'eau chaude, je lui dis très clairement, réfléchissez à quel type de ballon vous allez mettre. Et faire attention à ça. Maintenant, vous avez des ballons qui sont beaucoup plus économes et qui, des fois, vont permettre d'avoir une meilleure classe énergétique. Et pareil, l'aspect, par exemple, esthétique extérieur sur un ravalement. Aujourd'hui, on ne va plus commander un ravalement comme on le faisait à l'époque. On va réfléchir, justement, est-ce qu'il n'y a pas une amélioration énergétique possible par le biais de ce ravalement.
Est-ce qu'il y a encore des propriétaires récalcitrants, hormis l'aspect financier ? Et comment vous réussissez à les convaincre ?
Il y a toujours, des personnes qui sont récalcitrantes parce que on va des fois évoquer une économie d'énergie, économie financière. Sauf que eux vous disent, bah oui, mais attendez, le résultat, c'est il faut 30 ans pour amortir finalement les travaux qu'on va faire. Donc vous avez des gens qui sont récalcitrants. Vous avez aussi des gens qui habitent le logement, qui vont l'habiter des fois ponctuellement. Donc eux vont pas voir l'intérêt en termes de confort pour eux, parce qu'il n'y a pas que l'aspect financier, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect confort. Donc cela, c'est pas toujours évident. Il y a un des arguments qu'on utilise fortement, c'est la valorisation de leur patrimoine. C'est-à-dire que à un moment donné, ils peuvent penser à le vendre. S'ils veulent le louer, il y a une contrainte par rapport à l'aspect énergétique, donc ça, il ne faut pas le négliger. S'ils veulent le vendre, effectivement, aujourd'hui, vous avez une sensibilité des acquéreurs qui est beaucoup plus forte qu'il y a 5 ans, 10 ans, où en fait, même la plupart des sites mettent en avant le classement énergétique. Vous avez même la possibilité de trier par classement énergétique. Donc ça, c'est un des arguments que nous utilisons fortement à leur égard.
Alors dans cette étude, on parle beaucoup de la copropriété de demain. D'ailleurs, c'est ce que j'ai beaucoup aimé à travers cette enquête, hein. C'est le côté plutôt positif où on n'oppose pas les syndics et les copropriétaires, parce que quand même ils travaillent ensemble, c'est important de le préciser. Et il y a cette notion de futur, d'avancer ensemble pour construire la copropriété de demain. Si on devait imaginer ensemble le syndic idéal de demain et la relation syndic-copropriétaire idéale, voilà, qu'est-ce qu'on changerait? Ça ressemblera à quoi pour vous?
Mieux se connaître, donc cette étude, j'espère, y contribue. Hein, il y a une relation de confiance à généraliser, disons, à recréer, certainement. Et je pense que ça commence par une meilleure connaissance des attentes des uns et des autres et une bonne connaissance du rôle de chacun. Ça, je pense que c'est un préalable. Et puis après, sur les évolutions, on en a un petit peu parlé, mais à la fois plus digital et aussi plus humain. Plus humain, plus de relationnel, plus de présence dans les immeubles aussi.
Donc peut-être utiliser l'IA pour se dégager du temps, pour s'occuper de l'humain.
Certainement.
Ce serait peut-être la solution. Même question, Bruno.
Peut-être libéraliser un petit peu plus l'action et le rôle du syndic de copropriété. La réglementation est passée par là et aujourd'hui, on a un contrat qui est très contraint, mais qui laisse finalement peu de place à l'initiative. Donc en fait, on comprend, hein, à la base, c'est pour lutter contre les abus de certains professionnels, mais en même temps, c'est ce qui a fait que beaucoup se restreignent en fait à ce qu'on leur demande de faire dans un contrat. Donc ça, je pense que ça manque d'initiative parce que chaque copropriété, pour moi, est unique et on a en fait des dispositions différentes. On a des profils, comme je l'ai dit tout à l'heure, de copropriétaires différents. Des fois, on a même de la mixité avec des bailleurs sociaux, avec des mairies, des collectivités. Donc, je pense que voilà, un peu plus de liberté, confiance réciproque, ça c'est important. Et pour moi, c'est main dans la main. C'est-à-dire que plus on arrive finalement à convaincre les copropriétaires d'entretenir, de réaliser des travaux, plus le syndic finalement sera content parce qu'il y aura aussi moins de sollicitations. Parce que la plupart des sollicitations viennent souvent de soucis qui sont rencontrés au sein de la copropriété.
On ne peut pas éluder non plus, à mon avis, la question des honoraires. Je pense que la copropriété de demain, elle doit être mieux valorisée. Le rôle du syndic doit être mieux valorisé. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de confusion sur les honoraires du syndic, qui sont parfois confondus avec les charges de copro. Voilà.
Oui, parce que les copropriétaires pensent que tout va dans la poche du syndic.
En fait, ils ne connaissent pas le prix du syndic, qui est en réalité pas très cher au regard de la prestation qui est faite. Et je pense aussi que si on veut une prestation de qualité, et on voit qu'il y a des attentes très fortes des copropriétaires, il faut aussi que ça soit reconnu à sa juste valeur. Et ça me paraît indispensable pour justement aussi renouer la confiance, permettre cette présence dont on a parlé, puisque sinon on peut pas se donner les moyens de l'action.
Sur cet aspect, d'ailleurs, on voit, plus un copropriétaire est investi, quand il est membre, par exemple, d'un conseil syndical, mieux il comprend le rôle du syndic et la valorisation de ses honoraires. Je ferai un parallèle. Sur les transactions, très souvent, on entend parler de frais de notaire. Et les notaires ont œuvré pendant des années pour expliquer que dans les frais de notaire, finalement, la partie d'émolument qui revenait au notaire était très faible. C'est pareil dans la gestion d'une copro. Très souvent, on entend des copropriétaires qui nous disent « vous prenez cher ». Mais en fait, il parle des charges. Il ne parle pas du tout, en fait, de la prestation que nous assurons et du coût de cette prestation. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, c'est vrai que là, il y a...
Et qu'est-ce que vous leur dites quand ils vous disent ça ?
ah ben on reprend, on leur dit de reprendre le budget et on va regarder quel est le montant de nos honoraires. Et après, alors nous aujourd'hui, hein, on a aussi une méthodologie, c'est qu'en fait on va expliquer le nombre d'heures qu'on passe sur un dossier, on va expliquer le nombre de collaborateurs qui est mis à contribution sur leur dossier. Et finalement, c'est par ce biais-là qu'on arrive à revaloriser plus facilement nos honoraires. On a eu, on le voit, hein, toutes nos charges ont augmenté, que ce soit les charges sociales, que ce soit les charges liées aux locaux, liées aux outils, parce que les outils, tout ce qui est digital, ça a un coût. Donc ça, on arrive à leur expliquer et je dirais qu'on commence à avoir en face de nous des copropriétaires qui sont plus réactifs et plus compréhensifs et qui acceptent en fait de voir nos honoraires revus à la hausse, ce qui est important.
Donc il faut expliquer, il faut se justifier en fait du temps passé sur les dossiers.
Tout à fait. Oui. Tout à fait.
Jean-Baptiste, cette étude évidemment est à retrouver sur votre site internet.
Exactement, galian-smabtpu.fr. Donc l'étude est en intégralité disponible effectivement sur notre site.
Et donc allez la consulter, étude très intéressante. Merci beaucoup à vous deux pour cet échange passionnant. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier numéro de Carrément Immo de la saison.